Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous, bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. Goodluck Jonathan, émissaire de la CDAO, est arrivé au Mali. Deux militaires et 18 miliciens tués dans des combats dans l'est de la RDC. Human Rights Watch accuse le gouvernement éthiopien de jeter en prison des milliers de Tigréens expulsés d'Arabie Saoudite. C'est demain l'anniversaire de l'attaque du Capitole par des partisans de Donald Trump. Un an après, le pays est toujours très divisé. Dans un peu plus de 10 minutes, les sports avec une présentation des groupes qui vont participer à la CAN qui commence dimanche au Cameroun. Mais d'abord, le journal. L'émissaire des États ouest-africains s'est rendu mercredi à Bamako pour transmettre au président de transition, le colonel Assimi Goïta, un message des dirigeants de la CDAO. Sa visite intervient 4 jours avant un sommet régional sur le Mali. Abdourahmane Dia.
L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est arrivé dans la capitale malienne en amont d'une réunion dimanche à Accra des chefs d'État et de gouvernement ouest-africains. La junte au pouvoir à Bamako veut prolonger la transition jusqu'à 5 ans à compter du 1er janvier. La CDAO a signifié qu'un tel délai est inacceptable et avait obtenu des autorités maliennes l'engagement qu'elle rendrait le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois. Maintenant, les autorités disent ne pas être en mesure de respecter cet engagement. Les dirigeants de la CDAO devront décider donc dimanche de la réponse à apporter à la proposition d'étendre la transition jusqu'à fin 2026. Lors d'un précédent sommet le 12 décembre, les dirigeants ouest-africains avaient réclamé la tenue d'élections le 27 février de cette année. Ils avaient maintenu les sanctions infligées à environ 150 personnalités et leurs familles et brandi la menace de nouvelles sanctions économiques et financières.
Dans une lettre remise mardi au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme que les actes violents commis au Mali par des éléments extrémistes se développent dans le sud et l'ouest du pays. Les attaques semblent être un moyen pour les groupes terroristes de démontrer leur capacité continue à harceler les forces nationales et internationales, à projeter leur domination sur le terrain et à intimider les populations. Au Burkina Faso, plus de 3000 écoles accueillant quelque 511 000 élèves sont fermées à cause des violences djihadistes, a annoncé le gouvernement. À l'issue d'un conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Alkassou Maïga, a précisé que cela représentait plus de 13% de l'ensemble des structures éducatives du pays. Le porte-parole a toutefois loué les efforts fournis par les enfants déplacés internes qui ont permis de réinscrire près de 136 000 élèves dans l'ensemble du pays. Au Niger, la police a saisi 214 kilos de cocaïne dans le nord du pays et a arrêté un maire de cette région et son chauffeur qui tentaient d'acheminer la drogue en Libye, a annoncé mercredi l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. La drogue saisie dimanche, ainsi que le maire et le chauffeur arrêtés et leur véhicule, ont été présentés à la presse à Niamey, où ils avaient été transférés lundi. Nous reviendrons sur ce dossier dans la seconde partie de ce journal. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé mercredi avoir perdu 2 militaires et tué 18 miliciens lors de combats dans les hauts plateaux du Sud Kivu, théâtre de conflits communautaires récurrents. Nous faisons le point avec Rosine Munezero.
Hier, une unité envoyée en renfort est tombée dans une embuscade tendue par des miliciens de la coalition Makanika Twigwaneho à hauteur du village Kagogo en Uvira, dans les hauts plateaux du Sud Kivu, a expliqué le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de l'armée. Dans les échanges des tirs, l'armée a tué 18 miliciens et 2 militaires sont tombés et 5 autres ont été grièvement blessés, a indiqué l'officier. Les hauts plateaux du Sud Kivu sont minés par un conflit communautaire opposant essentiellement les Banyamulenge, des Tutsis congolais, aux membres des communautés Bembe, Fuliro et Nyindu. Le 28 décembre, un colonel, 3 soldats congolais et 12 miliciens ont été tués dans des combats contre la coalition Makanika Twigwaneho, toujours dans cette région des hauts plateaux dans l'est de la RDC.
Par ailleurs, des milliers de Tigréens ont été illégalement emprisonnés et violentés à leur retour en Éthiopie après avoir été expulsés d'Arabie Saoudite, affirme Human Rights Watch. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Les autorités éthiopiennes persécutent les Tigréens expulsés d'Arabie Saoudite en les détenant illégalement et en procédant à des disparitions forcées, déclare Nadia Hartman, chercheuse à Human Rights Watch. Ces Tigréens faisaient partie des dizaines de milliers d'immigrants expulsés depuis un an par l'Arabie Saoudite. Certains d'entre eux ayant été détenus ont raconté avoir subi des violences et d'autres avoir été accusés de collusion avec le Front de Libération du Peuple du Tigré, qui est désormais considéré comme un groupe terroriste par le gouvernement central. Beaucoup ont été interdits de contacter leurs proches qui croient qu'ils sont toujours en Arabie Saoudite. Selon les Nations Unies, le conflit au Tigré a fait plusieurs milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés et placé des centaines de milliers d'Éthiopiens dans une malnutrition sévère.
Au Tigré, les médecins du plus grand hôpital de la région ont dénoncé la multiplication des décès inutiles de patients en raison des pénuries de médicaments et d'équipements médicaux dus au conflit. Le manque d'oxygène, voire de pièces détachées pour les équipements médicaux, ont rendu les opérations chirurgicales impossibles depuis 6 mois, affirment dans un communiqué les médecins de l'hôpital Haider Referral Hospital de Mekelele, la capitale du Tigré. La Chine a exprimé son opposition aux sanctions américaines contre l'Érythrée dans un communiqué commun publié par Pékin et Asmara à l'occasion de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères dans le pays. Les États-Unis ont imposé l'année dernière des sanctions contre l'Érythrée en raison de l'implication de son armée dans la guerre dans le nord de l'Éthiopie voisine. À Zanzibar, 10 personnes sont mortes hier dans le naufrage d'un bateau qui transportait des personnes se rendant à des funérailles dans cet archipel situé dans l'océan Indien. 15 autres personnes ont été secourues après ce naufrage.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont condamné mercredi le tir par la Corée du Nord d'un projectile non identifié en mer qui pourrait être un missile balistique selon l'armée sud-coréenne. Washington a également appelé Pyongyang à des discussions. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ce tir viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et représente une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale, a fait savoir le département d'État américain. Son porte-parole a réitéré l'approche diplomatique des États-Unis envers la Corée du Nord et a appelé Pyongyang à engager le dialogue, en soulignant toutefois l'engagement des États-Unis à défendre la Corée du Sud et le Japon. L'administration Biden a dit à plusieurs reprises être ouverte à des discussions avec la Corée du Nord. Pyongyang a jusqu'à présent rejeté ses offres, accusant Washington de mener des politiques hostiles. Le secrétaire d'État Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin ont prévu de s'entretenir demain jeudi à distance avec leurs homologues japonais sur des questions liées à la sécurité. Selon l'armée sud-coréenne, Pyongyang a tiré ce qui est présumé être un missile balistique à l'est de la péninsule. Les services de renseignement sud-coréens et américains essaient d'obtenir plus de détails, ont indiqué les chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud dans un communiqué.
Toujours ici aux États-Unis, 13 personnes, dont 7 enfants, sont mortes dans un vaste incendie touchant un immeuble d'habitation en plein centre de Philadelphie, ont annoncé les pompiers de la ville. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a discuté ce mercredi à Amman avec le roi Abdallah II de Jordanie du conflit israélo-palestinien et des moyens de renforcer la coopération à l'occasion de la dernière visite en date d'un responsable israélien en Jordanie. Les visites des responsables israéliens dans le royaume se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir en Israël en juin du gouvernement de coalition du Premier ministre Naftali Bennett, qui fait du renforcement des liens avec la Jordanie une priorité. En Afghanistan, les talibans ont ordonné aux vendeurs de vêtements à Herat, dans l'ouest du pays, de décapiter les mannequins de leurs magasins qu'ils considèrent contraires à leur interprétation de la loi islamique. La directive s'ajoute à une série de mesures des talibans pour imposer dans le pays leur vision rigoriste de l'islam, limitant les libertés publiques. Voilà voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. L'équipe nationale de football du Sénégal a reçu hier à Dakar le drapeau national des mains du président Macky Sall. Ce dernier met la pression sur la bande de Sadio Mané en exigeant la victoire finale à la CAN.
Cette CAN reste un moment de vérité pour le football sénégalais. Un moment crucial où celui-ci doit se donner une exigence de victoire et une perspective définitive de triomphe pour la nation qui attend avec espoir depuis tant d'années. Avec foi, détermination et courage, fête de Cameroun 2021, le temps de la victoire pour le Sénégal.
Message reçu 5/5 par les Lions de la Teranga, avec à leur tête le capitaine Kalidou Koulibaly.
Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, monsieur le président.
Les Lions du Sénégal ont rejoint le Cameroun avec leur attaquant Ismaël Assar, qui a retrouvé ses équipiers hier après un bras de fer avec son club anglais de Watford. Nous continuons dans notre lancée sur la présentation des différentes équipes qui prennent part à la CAN Cameroun 2021, qui débute ce dimanche 9 janvier. Basé à Garoua, le groupe D comprend l'Égypte, la Guinée-Bissau, le Soudan et le Nigeria. Qui sont ceux qui peuvent arracher les deux places qualificatives pour les huitièmes de finale? Élément de réponse avec Bagassi Koura.
C'est l'équipe la plus titrée du continent avec 7 trophées en 25 participations et une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte est une habituée de cette compétition, mais à fin, car son dernier sacre remonte à 2010. À l'époque, les pharaons ont aligné 3 titres de suite, 2006, 2008 et 2010. Depuis, plusieurs joueurs se sont succédés en équipe nationale sans que l'Égypte ne réussisse à accrocher une nouvelle étoile à son maillot. Cette génération, amenée par Mohamed Salah, double ballon d'or africain, a déçu à domicile en 2019, s'inclinant en quart de finale face à une modeste mais combative équipe d'Afrique du Sud. Une frustration qui, jusqu'ici, est restée au travers de la gorge des Égyptiens. N'empêche, les pharaons font partie des favoris de cette CAN 2021 et devront cette fois-ci aller chercher le trophée loin de leur terre. Le coach Carlos Queiroz a bâti son équipe autour de talents locaux, puisés dans des clubs comme Al Ahly, 10 fois vainqueur de la Ligue des champions CAF, et le Zamalek. Bien évidemment, des cadres stars comme Mo Salah et Trezeguet tenteront de pousser leur équipier à se surpasser après une phase éliminatoire modeste, 3 victoires et 3 nuls. Oui, 19 phases finales de CAN, 3 trophées dont le dernier remonte à 2013 en Afrique du Sud. Ces statistiques témoignent du statut mitigé du Nigeria, le plus souvent annoncé comme favori dans les différentes CAN, mais qui peine à assumer ce rôle. Ces Super Eagles ont réussi une phase éliminatoire sans aucune défaite, 4 victoires et 2 matchs nuls. Ils devront cependant se passer de leur attaquant du club italien de Napoli, Victor Osimhen, pas encore remis de plusieurs fractures au visage et qui a récemment contracté le Covid-19. En plus d'Osimhen, le Nigeria fera sans Emmanuel Dennis, ailier de Watford, que son club a refusé de libérer car ayant reçu tardivement la demande de la fédération nigériane. Des absences vite comblées par des remplaçants de qualité comme Henry Onyekuru de Olympiakos et Peter Olayinka du Slavia Prague. Pour le reste, le Nigeria se présente au Cameroun avec des cadres comme Ahmed Moussa ou encore Samuel Chukwueze, le nouveau sélectionneur Augustine Eguavoen qui a pris ses rênes de l'équipe en décembre à moins d'un mois de la compétition en remplacement de Gernot Rohr. Devra mieux faire que la 3e place enlevée par le Nigeria lors de la précédente CAN en 2019 en Égypte.
Merci Bagassi. La Guinée-Bissau et le Soudan voudront jouer les troubles faites dans cette poule D. Nous les découvrons avec Abdourahmane Dia.
Depuis qu'elle a goûté à la CAN pour la première fois en 2017, la Guinée-Bissau fait dans la régularité et jouera sa 3e CAN d'affilée. Les Osturtous se sont qualifiés pour Cameroun 2021 en finissant 2e de leur groupe devant le Congo grâce à 3 victoires et 3 défaites sur les 6 journées des éliminatoires. En trois CAN, les Bissau-Guinéens n'ont pas encore franchi le premier tour et rêvent donc d'atteindre pour la première fois les matchs à élimination directe. Un objectif qui pourrait être difficile à réaliser avec deux cadors égyptiens et nigérians dans ce groupe D. Fondée depuis 1936, l'équipe nationale du Soudan est l'une des plus vieilles d'Afrique, même si elle peine à s'imposer sur le plan continental. Avec un seul sacre datant de 1970, le Soudan et ses 9 participations en phase finale de CAN est conduit par un sélectionneur local, Burhan Tia. Ce dernier est à la tête de l'équipe depuis mi-décembre, succédant au Français Hubert Velu de remercier. La marque de fabrique de cette sélection soudanaise, des joueurs locaux peu connus qui pourraient échapper à toute tactique adverse. À défaut de passer le premier tour, les crocodiles du Nil pourraient jouer les troubles faits dans cette poule D, eux qui ont quand même gagné 4 de leurs 6 matchs en éliminatoire contre seulement 2 défaites.
Merci Abdou. C'est ici que se referme notre page du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
Merci Akuba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako ce matin avec un message des présidents de la CDAO. Les discussions continuent avec le président de la transition à Koulouba. Des Maliens nous donnent ici leur point de vue sur la durée de la transition au micro de notre correspondant Lamissa Sangaré.
Pour moi, cette visite, elle n'est pas comme les autres visites, hein, parce que cette visite intervient après que les autorités maliennes aient présenté un projet de chronogramme de la tenue ou même du prolongement de la transition qui prévoit la tenue des élections en décembre 2026. La CDAO, le 1er janvier, n'avait même pas répondu à ce projet. C'était juste contenté de faire une note pour dire que le médiateur de l'organisation sous-régionale serait là ce mercredi à Bamako. Il y a cela, mais cette visite est aussi un point d'étape peut-être avant la tenue du sommet extraordinaire sur le Mali des chefs d'État de la CDAO qui doit se tenir le 9 janvier, je pense. Et aujourd'hui, c'est tout juste pour venir prendre langue avec les autorités maliennes par rapport au chronogramme que ces autorités ont présenté à l'organisation sous-régionale.
Ouais, moi, je pense que le Mali étant un pays membre de la CDAO, le Mali fait partie des pays initiateurs de la CDAO. À cet effet, l'arrivée de Goodluck Jonathan est une bonne chose, surtout que la CDAO est là pour le bien-être du peuple malien, non seulement de nos institutions et de tout le peuple malien. Donc la CDAO, son travail, c'est de nous aider de sortir de cette crise. Nous devons tous espérer en tant que Maliens que de cette discussion a jailli la lumière pour que le Mali puisse sortir vraiment de cette impasse.
Je ne trouve rien d'extraordinaire dans sa mission. Ce n'est qu'une suite logique de la mission que la CDAO a commencé à travers du Goodluck Jonathan depuis que la transition s'est mise en place depuis la coupe de coup d'État. Cette s'inscrit dans la logique de ce qui avait déjà commencé. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, c'est juste pour entamer des négociations avec les autorités transitoires pour voir qu'est-ce qui est possible de le faire.
Je suis donc ici favorable à cette crise. Durant combien de décennies, on a été meurtri. Je suis un compressif. Je suis le premier à souffrir. La CDAO, n'importe quelle institution africaine ou internationale, doit en âme et en conscience donner la main pour nous soutenir et non nous donner le dos de la pierre.
Dans notre culture, l'arrivée d'un éminent dirigeant de la communauté de la CDAO est une très bonne chose, mais on ne sait pas quel est le message qu'il est en train d'amener au Mali. Mais nous espérons et nous conseillons aux autorités de la transition de faire tout pour ne pas se mettre à dos avec la CDAO. Car la CDAO, c'est nous-mêmes. Le Mali est membre fondateur de la CDAO.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Au Niger, plus de 200 kilos de cocaïne ont été saisis en début de semaine. La drogue a été découverte dans le véhicule d'un élu local de la région d'Agadez au nord du pays. Plus de précisions dans ce reportage avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est la plus grande saisie de cocaïne de l'histoire du pays, selon la police nationale, commissaire Aïchatou Ousmane Bako, porte-parole.
La valeur marchande de la cocaïne saisie s'élève à 11 milliards 73 millions de francs CFA à la revente, soit 16 millions 880 000 euros. Au total, l'OCRITIS a interpellé trois individus de nationalité nigérienne et saisi 214 kg 635 de cocaïne, 450 000 comprimés de pregabaline, 8 téléphones portables, 2 pistolets automatiques et plusieurs chéquiers de banque. Plusieurs autres personnes sont en fuite, mais ils sont activement recherchés.
Les personnes interpellées, le maire de la commune de Fachi et son chauffeur notamment, ainsi que la drogue saisie, ont été présentées à la presse en présence du procureur de la République, Cheibou Moussa.
Nous attendons la fin de l'enquête. Quand il y aura les déferments, nous allons sans faiblesse donner des suites appropriées à cette procédure. Une fois que les suites sont données, nous allons veiller au traitement judiciaire qui sera réservé à la fin. Et à ce stade, nous allons faire preuve de beaucoup de diligence et de rigueur pour que la procédure aboutisse et que les lois de la République soient appliquées à ceux qui seront reconnus coupables des faits pour lesquels ils seront traduits.
Présent également à la cérémonie, le ministre de l'Intérieur a déploré le manque de collaboration des autres pays dans la lutte contre ce fléau. Amadou Adamou Souley.
Quand il y a saisie de drogue, de quelque envergure que ce soit, c'est du Niger qu'on parle, parce que c'est au Niger qu'on lutte contre le trafic. Les trafiquants sont véritablement inquiétés et ils vont continuer aussi à être inquiétés. Il faudrait qu'ils le sachent très bien. Si on le faisait véritablement ailleurs, comme le Niger le fait, évidemment, on aurait attrapé ces trafiquants dans ces pays qu'ils traversent avant de venir dans notre pays.
Pour les organisations de la société civile actives dans la lutte contre les stupéfiants, il faut intensifier cette lutte en donnant beaucoup plus de moyens aux services de la police. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, un an après l'assaut du Capitole par les partisans de l'ancien président Trump qui espérait empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden à la présidentielle de 2020, des centaines de personnes attendent toujours leur procès pour leur rôle présumé dans l'assaut, tandis que 155 autres ont plaidé coupables. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, fait le point. Le récit est de Mohamedou Oumfa.
Un an après, il y a toujours des zones d'ombre sur l'attaque du 6 janvier au Congrès des États-Unis. De nombreux partisans de l'ancien président Donald Trump minimisent l'affaire, tandis que d'autres Américains reprochent au président Trump d'avoir poussé ses partisans à saper le processus démocratique. Des émeutiers ont envahi les couloirs du Capitole, mettant en péril la sécurité du personnel et des législateurs qui se préparaient à certifier la victoire électorale de Joe Biden. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants.
I'll never forgive President.
Je ne pardonnerai jamais à l'ancien président des États-Unis et à ses partisans ces brutes qu'il a envoyés au Capitole pour le traumatisme causé à notre personnel.
La Chambre des représentants avait rapidement mis en accusation Donald Trump, l'accusant d'incitation à l'insurrection, mais le Sénat américain l'a acquitté peu après. Fin juin, la Chambre des représentants a mis sur pied un comité spécial pour enquêter sur la responsabilité du président Trump. Le comité a assigné à comparaître plusieurs anciens responsables de la Maison-Blanche et le personnel de campagne de M. Trump pour qu'ils témoignent sur les jours qui ont précédé l'attaque. Ce comité devrait publier un rapport avant les élections de mi-mandat de novembre 2022, mais ses conclusions ne sont pas juridiquement contraignantes. Dans les tribunaux fédéraux, 704 personnes ont été inculpées pour des infractions allant de troubles à l'ordre public à des accusations plus graves, comme la violence contre les forces de l'ordre et les médias. Entre 70 à 80 personnes font face à des accusations encore plus graves de complot. John Lewis, expert à l'université George Washington.
Ce sont les groupes extrémistes violents américains comme les Proud Boys, les Oath Keepers. Certains ne seraient pas simplement allés au Capitole pour suivre le discours et protester, mais étaient membres d'un complot organisé impliquant la collecte de fonds, la distribution des armes, l'attaque du Capitole et la dissimulation des armes à feu dans un hôtel de Virginie.
Cinq personnes sont mortes pendant l'émeute du 6 janvier. La question est toujours de savoir si ce chaos était spontané ou planifié par Donald Trump, le président de l'époque.
Des défis pour les entreprises agricoles aujourd'hui, c'est le manque criant de main-d'œuvre. Afin d'apporter une solution concrète à cette crise, la société Nayo Technologies développe et commercialise des robots agricoles autonomes qui désherbent les cultures et parcelles. Arzuma Compaoré s'est entretenue avec Ingrid Sarlandi, la directrice des opérations de Nayo Technologies, présente au Salon de l'électronique qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Las Vegas.
Aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont deux problèmes. Il n'y a plus de main-d'œuvre, plus personne ne veut travailler dans les champs. Ça coûte de plus en plus cher d'embaucher de la main-d'œuvre pour travailler dans les champs, mais surtout plus personne n'a envie d'aller dans les champs. Et ils n'ont plus le droit d'utiliser de produits chimiques, de pesticides. Pour autant, ils doivent toujours produire plus en plus de légumes et de fruits parce qu'on est de plus en plus nombreux. Comment on fait ? C'est une équation qui n'a pas de solution. Mis à part la robotique agricole autonome. Ce que l'on fait, on fait des robots qui fonctionnent tout seuls dans les champs. On a développé à la fois la partie logicielle et aussi la partie robot. On a décidé de développer une gamme de robots, puisque tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes besoins. Ici, c'est Oz, c'est notre plus petit robot. Vous voyez ici Dino, beaucoup plus gros pour tout ce qui est champ de carottes, de poireaux, de laitue, de romaine. Et vous voyez aussi Ted, qui est le robot dédié à la vigne. L'idée, c'est vraiment d'être plug and play. Donc, on vient chez l'agriculteur et il peut utiliser notre robot en mode autonome en mettant ses outils sur nos robots. En même temps, nos données collectent des données pour donner de la donnée intelligente aux agriculteurs en temps réel. Aujourd'hui, on a développé plus de 250 robots autonomes qui fonctionnent en électrique. Ça représente environ 60 000 heures d'opération. On est les leaders de la robotique agricole autonome. On est né en France, on est né à Toulouse et on s'étend globalement avec une filiale aux États-Unis qui comprend aujourd'hui 11 personnes.
Quand on parle d'agriculture, on parle aussi de souveraineté alimentaire, on parle aussi de... C'est quand même un point stratégique. Quelle est votre approche par rapport à ça ?
Non, c'est vraiment une très bonne question et c'est vraiment ce qu'on cherche à développer, d'avoir un modèle qui est scalable, de pouvoir répondre à cet enjeu de la production alimentaire qui aujourd'hui est un problème. Et oui, nos robots sont créés pour opérer en fleet de robots. Donc en fonction de la taille du robot, on va avoir un robot, deux robots, des dizaines, des vingtaines de robots qui vont travailler en fleet avec un superviseur qui est ailleurs, dans un autre pays, dans une autre région, et qui va pouvoir superviser une flotte de robots.
Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour avoir accès à toute cette technologie ?
Il faut savoir qu'on opère avec deux business models. On vend nos robots, mais on opère aussi as a service, ce qui veut dire que les agriculteurs peuvent nous appeler et nous dire « J'ai un champ de 200 hectares, est-ce que vous pouvez venir la semaine prochaine ?» Et on vient opérer au service et ils vont nous payer avec un modèle de souscription. Donc c'est vraiment pour des exploitations de faible densité, on parle d'un prix autour de 30 000 dollars. Pour le dino que vous voyez là, qui est vraiment pour les...
Ça, c'est le dinosaure. Hein.
Exactement, le dinosaure, qui est vraiment pour les plus larges exploitations, on va plus être autour d'un prix autour de 200 000 dollars. Et pour le TED, on est dans le même ordre de grandeur. On essaye de rendre l'agriculture plus intelligente et plus durable et d'offrir de vraies solutions aux agriculteurs qui répondent à leurs enjeux.
Cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Cook. I'm from dollar bills and I be popping rubber bands. You know, stand to me while I do my money dance. Like.